Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Emmanuel Macron recherche la voie étroite pour continuer à gouverner avec un camp présidentiel amputé, une assemblée morcelée. La question du maintien d'Elisabeth Borne à Matignon est posée. Comment donner tout son poids à la NUPES ? Jean-Luc Mélenchon propose un groupe unique. Il n'en est pas question, lui répondent ses alliés de gauche, pendant que Marine Le Pen revendique le rang de premier parti d'opposition. Dans ce journal, nous irons aussi en Ukraine avec notre envoyé spécial Nicolas Tonev, près de la ligne de front. Vous ressentirez l'intensité des combats en cours entre les Russes et les Ukrainiens. C'est l'ultime épreuve et l'une des nouveautés du bac. Le grand oral pour les candidats, c'est 20 minutes sur le grill et c'est loin d'être évident, vous l'entendrez. Le temps demain sera dominé par les orages sur la plupart des régions et parfois violents. Point météo complet à la fin de ce journal. L'invité politique, Sacha Houlier, député Renaissance, réélu dans la Vienne, ce qui est loin d'ailleurs d'être le cas de tous les députés macronistes. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
La Macronie menacée de paralysie. Les législatives ont ôté à Emmanuel Macron sa majorité absolue. Pour le chef de l'État, c'est donc le pire des scénarios qui se concrétise. À l'Assemblée, il n'a plus l'arithmétique pour faire passer ses réformes. Le président se mure dans le silence. La question ce soir concerne le sort d'Elisabeth Borne. Jacques Serret, la première ministre affaiblie et donc menacée.
Oui, Elisabeth Borne est sur un siège éjectable. Même parmi ses plus proches collaborateurs, personne ne sait si elle va rester à Matignon. Tout est possible, me confie un de ses conseillers. Je n'ai pas encore déballé mes cartons. J'ai peut-être des bienfaits, craint un autre. Et il y a de nouveaux éléments qui instillent le doute ce soir en Macronie. Alors qu'il était prévu demain matin, le conseil des ministres n'aura pas lieu. Tout simplement annulé. Emmanuel Macron avait fixé aussi l'installation de son fameux Conseil national de la refondation à mercredi. Nous avons appris que ce rendez-vous était reporté. Une certitude, Elisabeth Borne doit remettre sa démission et celle de son gouvernement. C'est la tradition républicaine après des élections législatives. C'est une démission de courtoisie. Reste à savoir donc si Elisabeth Borne sera immédiatement renommée, alors que son profil marqué à gauche ne semble plus en adéquation avec les besoins de la majorité présidentielle qui doit désormais essayer de composer avec la droite pour gouverner.
Oui, Jacques, serait Emmanuel Macron tant de reprendre la main par le dialogue. Le président va recevoir demain et mercredi les forces politiques en mesure de former des groupes à l'Assemblée. Leurs représentants seront reçus successivement à l'Élysée pour bâtir des solutions au service des Français, indique l'entourage du président ce soir. La Macronie a perdu hier des figures majeures. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, battu par une novice socialiste dans le Finistère. Il va donc quitter le perchoir de l'Assemblée après avoir été l'un des principaux artisans de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Un autre compagnon de route de la première heure, Christophe Castaner, battu lui aussi dans les Alpes de Haute-Provence. L'ancien ministre de l'Intérieur a été défait par l'insoumis Léo Valter. Le nouveau député NUPES savoure sa victoire.
Il est évident que Christophe Castaner en 2022 n'est pas le Christophe Castaner de 2017, qui était à l'époque porté par la dynamique d'Emmanuel Macron, qui était encore auréolé ici de son rôle de maire de Fort-Calquier, de vice-président de région, et qui était le tout jeune ministre d'un tout jeune gouvernement qui promettait aux Français de n'être ni de droite ni de gauche. Au bout de 5 ans, on sait une chose, c'est qu'il n'était ni de gauche ni de gauche et qu'il a mené une politique de droite pendant 5 ans. Au-delà des politiques libérales que nous dénoncions dès 2017, il a mené des politiques autoritaires. Et comme nous sommes dans un département où le mouvement des Gilets jaunes a été très puissant, mais également le mouvement de contestation de la réforme des retraites de 2019, également les mouvements, les manifestations contre les lois liberticides de l'été dernier, il est évident qu'une part du résultat de ce soir vient de la sanction très claire qu'ont imposée les électeurs et les électrices à ce Christophe Castaner-là.
Léo Valter, député NUPES, au micro de Frédéric Michel. Il ne fait aucun doute ce soir que le premier parti de France reste l'abstention, plus encore qu'au premier tour des législatives. 54% des électeurs ne sont pas allés voter. Dans la nouvelle Assemblée, en revanche, il y a débat quant à savoir qui devient la première force d'opposition. Avec 89 députés élus, le RN revendique ce statut. Cette percée historique de l'extrême droite inquiète justement la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. L'Alliance de la gauche rassemble certes 131 députés, mais elle garde des pieds d'argile. Voilà donc la proposition formulée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon à ses alliés.
Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Je pense que c'est un élément de clarification, d'ordre. qui s'impose dans le chaos qui s'avance. Ce n'est naturellement pas une injonction, c'est une proposition. Je pense que si nous le faisons, nous serons conformes à notre engagement auprès de ceux qui ont voté auprès de nous.
Passer de l'union à la fusion, avec un seul chef pour un seul groupe, Jean-Luc Mélenchon s'est aussitôt heurté à un mur. Il n'en est pas question, répondent les écologistes, socialistes et communistes. Cette union de la gauche pourrait bien s'avérer aussi éphémère qu'elle est historique, Arthur Delaborde.
Oui, c'est peut-être le certificat de décès de la NUPES qui a été acté aujourd'hui. Il faut dire qu'avec environ 150 députés, l'alliance n'est pas aussi forte qu'elle l'espérait. En son sein, c'est bien la France insoumise qui pèse le plus, mais elle n'a pas suffisamment de députés pour dépasser à elle seule les 89 sièges du Rassemblement national. Un obstacle majeur qui devrait par exemple l'empêcher de pouvoir décrocher la présidence de la très influente Commission des Finances. Jean-Luc Mélenchon a donc tenté un coup de poker pour reprendre la main, mais il s'est vu opposer une fin de non-recevoir, pas question pour les socialistes, les communistes et les écologistes, de former un seul et même groupe. Et ils n'avaient en réalité aucun intérêt à accepter cette proposition qui aurait signifié pour eux moins de temps de parole, moins de visibilité et moins de financement. Ils sont donc seulement d'accord pour un intergroupe à l'Assemblée, comme prévu d'ailleurs par l'accord de la NUPES. Néanmoins, les discussions informelles entamées la nuit dernière seraient toujours en cours. Et bien conscient que la survie de l'Alliance est en jeu, les Insoumis ont fait ce soir une nouvelle proposition, un groupe unique, mais avec cette fois une présidence tournante et avec une répartition équitable des postes clés.
Arthur Delaborde, ces postes clés de l'Assemblée, justement, vont être très disputés. C'est traditionnellement le premier groupe d'opposition qui se taille la part du lion. Or, la NUPES et le RN revendiquent tous les deux ce statut. Avec 89 députés RN, Marine Le Pen triple quasiment le score de son père en 86, qui bénéficiait en plus à l'époque de la proportionnelle. Marine Le Pen va prendre la présidence de son groupe et elle réclame une partie de ses postes clés, comme la Commission des Finances.
Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit, tout ce qui aurait été accordé au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc la présidence de la Commission des Finances, bien sûr, et une vice-présidence, bien sûr, parce que le groupe que nous avons, qui est encore une fois le premier groupe d'opposition de l'Assemblée, ne transigera sur aucun des moyens qui lui est accordé par la tradition ou par les règles républicaines pour pouvoir défendre les Français.
Marine Le Pen elle-même largement réélue dans le Pas-de-Calais avec 61% des voix. L'ancrage du Rassemblement national dans les Hauts-de-France n'est pas seulement confirmé, il est amplifié avec 5 nouveaux députés RN. Et pour la première fois, Lionel Gougelot, l'un d'entre eux, est élu dans l'agglomération de Lille.
Eh bien oui, il s'appelle Victor Cato, c'est un jeune juriste de 27 ans. Il a battu hier une candidate de la NUPES après l'élimination au premier tour du sortant LR et du candidat macroniste. Celui qui dit appartenir à la génération Marine s'empare ainsi d'une circonscription réputée imprenable.
L'implantation qu'on a mis en place pendant des années porte aujourd'hui ses fruits. Et les fonds républicains qui ont finalement été mis en place depuis tant d'années ne fonctionnent plus aujourd'hui, on l'a vu. Et les électeurs ont démontré qu'aujourd'hui, la seule opposition face à Emmanuel Macron, c'était les députés du Rassemblement national.
Et donc, pour implanter pour la première fois le Rassemblement national dans la métropole lilloise, cette nouvelle figure du parti lepéniste a d'abord séduit un électorat anti-Macron, selon Anthony, un sympathisant patron d'un café.
Ce qu'on entend beaucoup, c'est beaucoup la sécurité qui revient, le manque de pouvoir d'achat. On entendait vraiment les gens qui voulaient une opposition à Emmanuel Macron. Quoi. Puis ils voulaient mettre, je pense, un coup de pied dans la fourmilière.
Et dans cette circonscription tenue par un LR depuis 20 ans, certains comme Marie-André, la retraitée, ont choisi de faire pencher le duel NUPES-RN en faveur de Marine Le Pen.
J'avais lu son programme et elle a aussi des bonnes choses. Donc moi je dis pourquoi pas, je dis allez, on donne la chance à Victor et qu'il fasse tout son mandat et je lui souhaite que des bonnes choses.
Le jeune député fera son entrée au Palais Bourbon mercredi et en attendant, eh bien, il s'affaire à organiser sa prochaine nouvelle vie de parlementaire.
Lionel Gougelot à Haubourdin, près de Lille, pour Europe 1. Composer plutôt qu'imposer, nouveau mantra de ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, mais composer avec qui? Les Républicains seront sans nul doute courtisés, ils ont 61 députés, mais leur président Christian Jacob redit qu'ils sont et resteront une force d'opposition. Il n'y aura ni pacte, ni coalition, ni accord avec le camp présidentiel Alexandre Chauveau. Et sur ce point, la plupart des cadres de LR sont d'accord.
Oui, à la quasi-unanimité. En réalité, seul Jean-François Copé plaide pour un pacte de gouvernement. Éric Ciotti, par exemple, réélu hier soir dans les Alpes-Maritimes, est très clair sur le rôle des Républicains à l'Assemblée.
Nous n'avons pas vocation à être la roue de secours d'un pouvoir qui a échoué, qui a fragmenté notre pays, qui l'a fragilisé.
Même son de cloche chez François-Xavier Bellamy, pour qui le scrutin d'hier offre une occasion inespérée à la droite de peser dans les 5 prochaines années.
C'est le moment plus que jamais, assumer notre ligne, défendre nos convictions paisiblement, être utile à tout ce qui ira dans le bon sens pour l'avenir de la France, mais être capable aussi, et ce sera le plus important, de résister à toutes les dérives auxquelles nous avons assisté au cours du dernier mandat.
La droite veut donc s'opposer, mais de manière constructive, en étant force de proposition, comme l'indique Christian Jacob, le président du parti.
Nous présenterons, soit avant la fin de l'été, soit à l'automne, une série de propositions sur les différents sujets qui sont les sujets de préoccupation des Français au quotidien.
Pouvoir d'achat, sécurité, santé, les Républicains veulent montrer aux Français qu'ils restent un parti de gouvernement et se distinguer ainsi de la NUPES et du RN qu'ils accusent déjà de vouloir bloquer la nouvelle Assemblée.
Alexandre Chauveau, 577 députés élus ou réélus. Une partie d'entre eux ont fait leur rentrée dès ce lundi dans les murs du Palais Bourbon. Certains ont donc découvert pour la première fois ce haut lieu du débat démocratique, Alexis de la Fontaine.
Oui, après une visite guidée de l'Assemblée nationale, chacun découvre son bureau et son siège dans l'hémicycle. Ensuite, les députés reçoivent leur mallette de parlementaire. Benjamin Lucas, nouveau député écologiste des Yvelines, détaille son contenu.
Il y a plein de choses. Il y a une écharpe tricolore, voilà, toute neuve, voilà, qui va servir parce qu'on va avoir beaucoup de manifs. Des documents divers et variés. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut être très utile également. Mais tout ça, c'est des outils. Là, ce qui va compter maintenant, c'est ce qu'on va dire et ce qu'on va faire pour celles et ceux qui nous ont élus.
Mais avant l'ouverture des débats, les députés ont jusqu'au 28 juin pour s'inscrire dans un groupe parlementaire. Enfin, le 29 juin, ils répartiront les postes clés de l'Assemblée, c'est-à-dire le président et ses vice-présidents, mais aussi la fameuse présidence de la Commission des Finances. Pour terminer, si Elisabeth Borne reste à Matignon, elle doit prononcer son discours de politique générale autour du 4 juillet. Les Insoumis ont déjà prévu de déposer une motion de censure contre elle le lendemain matin.
Alexis de la Fontaine. 188 femmes réclament la démission de Damien Abad, le ministre des Solidarités accusé de viol par plusieurs femmes. Tribune dans le journal Le Monde, signée par des femmes de tous horizons. La députée Clémentine Autain, par exemple, mais aussi la militante féministe Alice Coffin et l'actrice Adèle Haenel.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Nous partons maintenant pour l'Ukraine. Jour après jour, l'armée russe grignote des poches de résistance dans le Donbass. Moscou cherche à encercler l'armée ukrainienne qui défend toujours la route qui va de Lysychansk à Bakhmout. Les bombes pleuvent des deux côtés, mais les Russes menacent la ligne de défense ukrainienne. Notre envoyé spécial Nicolas Tonev a rencontré un convoi de chars ukrainiens en route pour le front. Son reportage.
Bakhmout, le fracas des départs d'artillerie. Mais aussi le sifflement et l'explosion des arrivées. Les Russes se rapprochent. Sur la route de Lysychansk, un bruit sourd, une fumée noire. Il faut laisser passer. Un premier T-72 arrache le bitume. C'est une colonne de chars. Ils foncent vers le front. Les monstres s'éloignent. À l'arrière, un tout jeune homme en t-shirt et bob kaki sur la tête. Le sous-lieutenant Mikita, 21 ans. Diplômé de son école militaire l'an dernier.
Ce sont mes hommes. Je suis officier commandant en second de la compagnie des tanks. Près du village de Berestova, l'ennemi a cassé notre ligne de défense. Donc avec mes tanks, on part défendre cette ligne car on essaye de sauver la route entre Lysychansk, Severodonetsk et Bakhmout. Si l'ennemi prend cette route, ça sera la merde pour nous.
Ça l'est déjà en fait. Une ambulance militaire arrive, le conducteur déverse sa colère et sa détresse sur Mikita et moi.
Ne donnez aucune information. Nos gars meurent, je transporte des blessés là.
Tu évacues ?
Oui, j'évacue.
Le jeune officier ne cache plus son désarroi.
Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de soldats blessés, c'est très difficile pour le moral. C'est vraiment comme une grosse merde.
Signe de l'importance de la bataille à venir. Des chars arrivent encore depuis Kramatorsk. Entre Siversk et Bakhmout, dans le Donbass, Nicolas Tonev, Europe 1.
Et des négociations sont toujours en cours pour débloquer les ports ukrainiens où des millions de tonnes de céréales sont bloquées. Négociations difficiles, si l'on en croit le président Zelensky. L'Afrique, menacée par la famine, est l'otage de l'invasion russe, déclare le président ukrainien. En Géorgie, des dizaines de milliers de manifestants ont marché dans la capitale de Tbilissi pour demander l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, alors que l'Ukraine pourrait obtenir ce statut de candidate à l'adhésion au cours du sommet européen de jeudi et vendredi prochains. Plus qu'une épreuve, c'est presque un rituel auquel doivent maintenant se plier les candidats du bac. Cette semaine et jusqu'au 1er juillet, plus d'un demi-million d'élèves de terminale vont passer le grand oral. C'est une nouveauté du bac version Jean-Michel Blanquer. 20 minutes d'expression orale devant deux examinateurs. Esther, Jules et Maya en sortent tout juste dans un lycée parisien. Premières impressions.
C'était plutôt stressant au début. Moi, franchement, ça a été, ça coulait de source, en fait.
Ça s'est passé relativement pas mal. Bah, je suis quelqu'un d'assez à l'aise à l'oral, donc ouais, il n'y a pas eu de problème. C'est juste vraiment au niveau de l'exposé, là où faut que je retienne des trucs, là où j'ai du mal. Il y en a un, il a pas été très cool envers moi. Il a posé des questions assez pièges, mais sinon, en général, ils étaient quand même assez cool. J'ai vraiment parlé avec le cœur.
Bah, il faisait grave chaud dans ma salle, du coup, j'ai fait un malaise en plein milieu de mon oral, mais bah, après, je me suis réveillée, j'ai pris de l'eau et j'ai continué. Je suis pas tombée sur le sujet que je voulais, mais en vrai, j'ai réussi à dire tout ce que j'avais à dire, donc maintenant, on verra la note, quoi.
Voilà pour ces réactions à chaud, recueillies par Alexandra Gégy. La vente de l'Olympique lyonnais est imminente. Un investisseur américain tient la rampe. L'OL est entré en négociation exclusive avec John Textor, américain déjà propriétaire de plusieurs clubs de foot. Le temps, Marlène Duret, ça tonne fort hein, ce soir déjà entre la Gironde et les Charentes.
Et oui, on a relevé une pointe à 113 km à l'heure à Angoulême, une autre à 112 du côté de Cognac, 105 à Bordeaux. C'est très actif par là-bas, on a des signalements de chute de grêle, de gros grêlons. Donc en région bordelaise, les vignobles ne vont pas du tout aimer. Et ces orages parfois violents prennent la direction du centre Val-de-Loire cette nuit. L'alerte orange aux orages est valable jusqu'à 2h cette nuit et va probablement évoluer à partir de 23h. Mais pour le moment, elle reste en vigueur dans le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, mais aussi dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine et tous ceux du centre-Val-de-Loire, excepté l'Eure-et-Loire, qui reste en jaune. Ces orages vont gagner en toute fin de nuit l'Île-de-France. Donc des averses orageuses vont circuler du bassin parisien à la frontière belge demain matin, avant de céder la place l'après-midi à un temps calme, avec de belles éclaircies entre l'Alsace et le nord de la Bretagne, en passant par la région parisienne, les Hauts-de-France et la Normandie. Nouvelle salve orageuse demain après-midi entre la Bretagne, le centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine. Ça fait une grande partie.
Presque partout en fait.
Presque partout. Le littoral vendéen, Charentais, Aquitain n'est pas concerné. Donc des conditions pas franchement idéales pour la fête de la musique.
Mmh, je vous ferai marquer. Hein. Oui, il va y avoir des surprises, des saucées
au moins.
en regardant les concerts de rue.
Et puis le vent de sud qui ne va pas aider aussi à faire fléchir les températures qui restent caniculaires dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Saône-et-Loire, le Jura, l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Isère et la Drôme, 10 départements toujours en alerte orange canicule. Au plus chaud de la journée, il fera 30 à 35 degrés entre l'Alsace et Rhône-Alpes, l'Est de l'Auvergne jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, 25 à 30 degrés et toujours une exception près de la Manche et de l'océan. Vous le savez, on ne dépassera pas les 20 à 25 degrés.
Merci Marlène, on va refaire le point avec vous tout à l'heure à minuit sur Europe 1 sur cette météo perturbée. Dans un court instant, c'est Top à Wall Street. Et puis notre invité politique, Sacha Houlier, député Renaissance, réélu hier dans la Vienne.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Didier Hamo sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Alors en l'absence de Wall Street qui est fermée ce lundi, la Bourse de Paris a débuté la semaine en légère hausse, sans grande réaction d'ailleurs aux résultats des législatives.
Oui, Wall Street fermée ce soir, c'est la journée de l'émancipation des esclaves aux États-Unis, un nouveau jour férié fédéral outre-Atlantique. Effectivement, dans un marché calme, en attendant, la Bourse de Paris a regagné 0,64%, une petite hausse, 5 920 points. Pas vraiment de réaction à la situation politique dans un marché toujours accaparé par les craintes inflationnistes et la remontée rapide des taux d'intérêt. Il y a quand même des rebonds, de nets rebonds sur les valeurs automobiles en particulier qui réagissent toujours au quart de tour, c'est le cas de le dire. Renault plus 10%, 26,37€ Renault, hein, plus 10% pratiquement. Le broker Jefferies a revu son objectif de cours en hausse, en nette hausse de 22 à 40€ sur Renault. Et puis tout le monde suit, tous les équipementiers, Valeo plus 8%, Faurecia plus 7,7%, Safran derrière, le motoriste gagne 5,6%, Plastic Omnium plus 4,5%. L'euro ne réagit pas vraiment, donc l'euro campe autour des 1,05 face au dollar.
Exception du jour, les groupes industriels ont reculé alors que le prix des matières premières reste évidemment au perché.
Oui, les valeurs industrielles retombent dans la construction, hein, en particulier avec l'envolée des prix des matériaux de construction. Ça inquiète évidemment les analystes. Rexel, moins 5,5%. Saint-Gobain, moins 4% encore. Le titre a perdu assez rapidement 30% en l'espace de quelques semaines. 43,98€ Saint-Gobain qui retombe encore. Schneider, moins 1,5%. On a même Air Liquide qui perd 1,6%. Ailleurs, les autres places financières étaient plutôt calmes en l'absence de Wall Street. En Europe, le DAX a quand même repris 1% en Allemagne. Milan, plus 1% aussi. Bruxelles, plus 0,2%. Madrid, plus 1,8%. Et donc, le CAC 40 en hausse ce soir de 0,64%. 5 920 points.
Merci Didier Hamo.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
L'invité politique à 22h20 sur Europe 1 et au lendemain des législatives. Bonsoir Sacha Houlier.
Bonsoir.
Vous êtes député Renaissance, vous appartenez donc au camp présidentiel, largement amputé à l'Assemblée. Ça s'est bien passé pour vous, puisque vous avez été réélu dans la deuxième circonscription de la Vienne. Il manque au camp présidentiel plus de 40 sièges pour garder une majorité absolue. Ça veut dire que le pays va devenir ingouvernable pour Emmanuel Macron, Sacha Houlier ?
Non, ça veut dire que hier on a effectivement essuyé un revers important, que désormais on a besoin de construire une majorité avec une majorité relative que nous ont donné les Français et avec d'autres partis politiques qui sont amenés à soit appuyer durablement la majorité à travers des groupes, soit appuyer au cas par cas selon les textes, selon le texte anti-inflation qu'on espère qu'il sera largement voté puisqu'il s'agit de redonner du pouvoir d'achat aux Français, ou sur des textes sur la programmation de l'énergie, et notamment sur l'avenir énergétique de la France en termes nucléaires ou de renouvelables, et qui doit venir si rapidement. Et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est la raison pour laquelle le président recevra dès demain les présidents des partis politiques pour savoir ce qu'il en est et sur quel contrat, quelle réforme, quelle mesure il peut y avoir d'accord.
Alors quel est l'objectif justement de cette série d'entretiens demain et mercredi à l'Élysée ? C'est tâter le terrain pour voir comment on peut essayer de faire passer les réformes malgré cette assemblée morcelée, Sacha Houlier ?
Oui, si vous voulez, les préoccupations des Françaises n'ont pas changé depuis les élections législatives. Il y a des impératifs extrêmement forts pour pouvoir remplir le caddie comme le réservoir. Il y a des obligations extrêmement fortes compte tenu de ce qu'on a vécu encore la semaine dernière avec une canicule extraordinaire et un changement climatique qui fait fortement pression sur nos vies quotidiennes ou sur des services publics que beaucoup ont réclamé à la campagne comme dans les villes.
Oui, mais Sacha Houlier,
avec un accès aux médecins. Et c'est ça pour le coup pour lequel on a besoin de construire des réformes et pour lequel on a besoin finalement de changer des choses.
Naturellement.
Et sur ces mesures-là, il va falloir aller chercher les députés qui nous manquent pour faire voter les lois.
Changement climatique. Pouvoir d'achat, on est tous d'accord sur le constat, c'est bien sur les moyens d'y remédier que les avis divergent, et la NUPES notamment, premier groupe d'opposition, n'a pas du tout les mêmes options qu'Emmanuel Macron sur ces questions, Sacha Houlier.
Bien sûr, alors d'abord j'ai cru comprendre qu'il y aurait plusieurs groupes et je sais que l'avis des socialistes sur le nucléaire n'est pas le même que celui des écologistes ni de la France insoumise et qu'il en va de même sur leur position par rapport à l'Europe et qu'il y a plein de différences entre eux, encore si on prend l'économie sociale de marché pour lesquelles les socialistes sont favorables et les écologistes aussi alors que c'est pas le cas de la France insoumise. Vous voyez qu'il y a quand même des divergences importantes et puis par ailleurs il y a des députés de droite et donc à droite comme à gauche. Je pense qu'il y aura des députés pour finalement réfléchir sur des textes. Vous savez, les Français, ils nous ont adressé un message clair. Ils veulent que personne ne nous gouverne seul. Pas plus nous que les oppositions. Et donc, c'est collectivement nous de retresser les manches pour trouver des solutions.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le président jupitérien qui est sanctionné dans les urnes avec un exercice du pouvoir vertical, voire solitaire ?
Il y a beaucoup de sanctions qui sont exprimées hier. Il y a une sanction sur l'hystérisation et la violence qui a mis Jean-Luc Mélenchon dans la cadre de la campagne. C'est une sanction où lui a fortement reculé par rapport aux estimations qui lui étaient données dans les sondages. Il y a une sanction par rapport à une vision qu'on n'a pas su exprimer, par rapport à un dépassement qu'on n'a pas su faire, par rapport à des messages qu'on n'a pas su envoyer aux électeurs, et ce qui fait qu'on a une majorité relative. Et puis il y a cette colère exprimée par une chose qui est aujourd'hui très inquiétante, 90 députés du Rassemblement National. Donc c'est beaucoup de sanctions et c'est le fait aujourd'hui qu'on nous dit soyez responsables, travaillez ensemble parce que finalement vous n'avez plus le choix au regard de la Chambre qui est celle qui est juste aujourd'hui.
À quelques rares exceptions près comme Clément Beaune, réélu de justesse d'ailleurs à Paris, vous n'avez pas appelé vous n'avez pas donné de consigne claire face aux candidats du Rassemblement National, Sacha Houlier, pas de front républicain.
Alors pour ce qui me concerne, j'en ai donné des consignes très claires. Par contre, ce que je regrette, c'est que j'ai constaté dans ma circonscription un report des voix du Front National au premier tour vers les candidats de la France Insoumise. Et ça, je le regrette, je le déplore. C'était un front qui a été un front de barrage. On a beaucoup voté contre au second tour et ça ne fait pas du bien à la démocratie. Donc c'est aussi des choses dont toi dois tenir compte aussi, d'une forme de colère qui s'est exprimée dans beaucoup de sens. Et là encore, moi j'ai vu qu'il y avait des polémiques qui naissaient ce matin sur qui était coupable, qui était responsable. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On a des Français qui nous ont adressé un message clair, c'est débrouillez-vous pour vous entendre pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et c'est la feuille de route que désormais on a à suivre.
Vous parlez de la santé de la démocratie, Sacha Ollier. Autre enseignement, c'est l'abstention record, plus forte encore qu'au premier tour. Elle est massive chez les jeunes. C'est quand même un échec majeur pour l'exécutif. Ça veut dire que de plus en plus de nos concitoyens se détournent de la vie démocratique.
Alors, ce qui est assez triste, c'est surtout l'abstention répétée, parce qu'elle était déjà record en 2017, elle le demeure, que lorsque son candidat n'est pas au second tour, il y a beaucoup d'électeurs qui se détournent du scrutin et qui préfèrent ne pas y aller, avec les conséquences qu'on a sur les majorités relatives que l'on constate, ou sur d'ailleurs des groupes importants d'opposition. Hein.
Oui.
Pour le coup, le président avait voulu une commission transpartisane pour la réforme des institutions, on y est. C'est ce qu'il faudra faire parce que personne ne détient la clé tout seul des solutions qui peuvent être apportées. Reconnaissance du vote blanc, vote en ligne et ce genre de dispositifs, c'est des éléments dont il faudra tenir compte.
Emmanuel Macron va devoir remballer ses pires projets. Voilà ce que dit la députée insoumise Mathilde Panot, hein, qui pourrait prendre la tête de son groupe. Elle pense notamment à la retraite à 65 ans.
Oui, moi j'ai pas commenté les outrances. La France Insoumise, elle sera de toute façon dans l'opposition à tout, pour tout, contre tout. Donc ça, moi je vais pas vous faire l'exégèse de ce qu'il pense. En revanche, je pense que sur l'âge légal de départ, 60 ou 65 ans, c'est un âge légal et franchement, c'est pas la bonne référence. Les bonnes références, c'est les durées de cotisation. C'est ce dont j'ai toujours été convaincu. 43 annuités, c'est les durées de cotisation vers lesquelles on doit tendre. Et c'est plutôt ça qui est le plus intelligent, parce que quand on a fait ces 43 années, on a le droit de partir à la retraite. C'est ce qui me semble le plus juste et le plus performant.
Une question ce soir, Sacha Ollier, c'est celle du maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. Elle est fragilisée, la Première ministre, après ces législatives?
Je vais pas vous dire qu'elle est renforcée parce qu'on a une majorité relative. Néanmoins, c'est pas de sa faute. Il n'y a pas de faute individuelle à ce genre de résultat. Il y a des fautes collectives et au-delà de la majorité. Hein, je vous ai dit qu'il y avait une campagne d'hystérisation, de violence. Moi, j'ai jamais connu ça en 15 ans de militantisme politique. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut que tous ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale s'interrogent sur pourquoi il y a eu autant de violence et qu'est-ce qui a fait que les choses ont autant dérapé. Donc, des situations individuelles, ça réglera pas la situation de la démocratie en France. Et donc un peu de grandeur d'esprit de la part de tout le monde par rapport à ça.
Merci Sacha Ollier.
Merci à vous.
Merci député Renaissance, camp présidentiel. Donc Sacha Ollier est élu dans la deuxième circonscription de la Vienne hier soir. Vous êtes sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, les unes des quotidiens demain matin. Et puis la libre antenne d'Olivier Delacroix. À tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Les unes de vos journaux demain matin avec cette question qui obsède Emmanuel Macron, c'est de la une de La Croix. Comment gouverner? Le parti présidentiel privé de majorité absolue va être contraint de nouer des alliances ou de faire des compromis pour faire passer ces réformes. Voilà donc le casse-tête de Macron. C'est la une des Échos, le chef de l'État qui reçoit ce mardi les responsables des partis politiques. L'avenir de la Première ministre Elisabeth Borne est en suspens. Macron à la recherche de la majorité perdue. S'amuse l'opinion pour éviter une paralysie du pays. L'exécutif doit trouver les 44 députés qui lui manquent pour avoir la majorité absolue, alors qu'un travail de recensement a commencé. Et oui, l'Élysée et Matignon sont en train de recenser ces élus qui pourraient permettre de faire la bascule. Emmanuel Macron se retrouve dans l'impasse, tandis que la NUPES est déjà divisée, titre Le Figaro. Atmosphère de fébrilité et de flottement dans l'entourage du chef de l'État, pendant que la gauche radicale refuse la tutelle de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, on entre dans le bizarre, titre Libé, dans cette citation attribuée à Emmanuel Macron. Libération vous propose le récit de la soirée du second tour des législatives dans les salons de l'Élysée, au moment où la Macronie qui s'imaginait intouchable s'est effondrée. 22h30, vous êtes sur Europe 1 et vous retrouvez avec un magnifique bronzage Olivier Delacroix pour la libre antenne. Bonsoir Olivier. Non,
bonsoir mon cher.
Vous n'êtes pas d'accord?
Je n'ai pas spécialement, je ne passe pas mon temps à me regarder dans la glace, donc du coup, vous me trouvez bronzé.
Bah oui, un peu quand même.
Ok,
vous avez fait des couleurs.
C'est fort possible. Bon. Il a fait très chaud ce week-end.
Ah, on a eu chaud, oui.
Oui. J'étais à Bordeaux, je tournais à Bordeaux, donc il faisait très, très chaud.
Bah, c'est pas pratique de dormir la tête dans le four. Hein. C'est,
non.
Pour non, mais trouver le sommeil.
Et les Bordelais, tous les Bordelais avec qui j'ai échangé m'ont dit que c'était. Enfin, voilà, qui n'avait jamais vu aussi chaud que ça.
Ouais. Bah, la journée de samedi à Paris, elle était.
Ah oui.
Elle était bien
gratinée
aussi.
Vous étiez à Paris aussi.
Ah oui.
Mais il y avait personne dans les rues, non?
Ses cheveux géants.
Sèche-cheveux géant.
Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah bah si, si, je pense que c'est le même effet en fait, vous voyez. Mais de la tête aux pieds, hein, voilà.
Ça a empêché un peu les gens d'aller voter.
Ah, alors ça c'était samedi, hein. Dimanche c'est retombé brutalement.
Ah, c'est retombé brutalement dimanche.
Oui, oui. Ouais, très surprenant.
Parce qu'il faisait chaud encore à Bordeaux dimanche.
Ouais.
Bon, ça a voté quand même.
Bah 54% d'abstention, je vous laisse en tirer les conclusions.
Ouais, voilà, voilà. C'est gênant quand même, hein, ça.
Bah, oh, je posais la question à Sacha Houlier, qui est donc député... Du camp présidentiel, on ne dit plus de la majorité depuis hier.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est un problème qui s'impose à tous les politiques, hein, pas seulement la majorité actuelle, bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est gênant, parce que ce soit pour la présidentielle comme pour les législatives, finalement, on a des élus, mais qui sont élus avec la moitié des citoyens.
Ça pose un problème de légitimité, en effet.
Voilà. Vous savez, il y a des pays où on est obligé de voter, hein.
Alors, je ne saurais pas vous dire lesquels, mais oui, il y a des pays où le droit de vote est, où le vote est obligatoire.
Le vote est obligatoire. En Europe, enfin démocratique.
Je ne saurais pas vous dire lesquels, mais là, comme ça, brûle pour point. Mais ça existe, en effet.
À creuser, Alexandre. À creuser.
Mais oui, à creuser.
À creuser, parce que ça serait quand même bien que, vu la montée des extrêmes, hein, parce qu'on va pas, on va appeler un chat un chat, ce qui est, en tout cas, moi, ce qui me préoccupe un peu, je pense que. Voilà, ça serait bien. Le vote est tout de même un droit pour lequel nos ancêtres se sont battus. Il y a eu du sang qui a coulé pour justement obtenir ce droit. Et je trouve que chacun devrait aller voter.
Bah, c'est sans doute un débat à lancer, en effet.
Bon, bah, écoutez, on le lance ce soir.
Voilà.
D'accord, vous qui nous écoutez, si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez nous appeler au 39-21.
Parfait.
Et nous, on se retrouve à 23h
pour
votre flash et puis à minuit pour le journal de la rédaction.
À 23h.
À tout à l'heure,
Olivier.